Les marchandes de sable, cap sur l'Atlantide, histoire de la mer de Isabelle Lafonta. Petite devinette bretonne. Si j'ouvre la porte de ma maison, je ne peux pas la refermer. Qui suis-je ? La réponse est le bigorneau. L'origine des poissons et des créatures aquatiques. À l'aube des temps, des Indiens vivaient dans un petit village perché dans la montagne. Pendant des années, ils vécurent heureux, car rien ne leur faisait défaut. La région dans laquelle ils habitaient était très aride, mais un petit ruisseau coulait près de leur village, et comme son eau était fraîche et pure, ils adoraient s'y désaltérer. Un jour, en dépit des fortes pluies d'automne, son niveau baissa de manière inquiétante. En quelques jours, il finit même par s'assécher complètement. Voyant que l'eau ne coulait plus, les Indiens, qui avaient entendu dire qu'une autre tribu vivait un peu plus haut, décidèrent d'envoyer un guerrier sur place. Après tout, se disaient-ils, peut-être ses voisins sont-ils responsables de la sécheresse qui nous frappe. Après avoir marché pendant 3 jours, le jeune homme arriva à l'entrée du village en question et remarqua aussitôt un barrage qui coupait la rivière et retenait l'eau dans un grand bassin. Furieux, il demanda aux habitants pourquoi ils avaient égoïstement asséché le ruisseau. Embarrassés, ces derniers lui conseillèrent d'aller trouver leur chef, car c'était lui qui avait ordonné la construction du barrage. Bouillant de colère, le jeune guerrier entra dans le tipi du chef de la tribu qui était dressé près de l'eau. Mais à sa grande surprise, il se trouva face à une gigantesque créature aux traits vaguement humains, paresseusement vautrée dans la boue. Bouffi, le monstre avait de grands yeux jaunes et saillants. Sa bouche était si grande que ses lèvres allaient presque d'une oreille à l'autre, et ses orteils étaient incroyablement longs et fins. D'abord surpris par cette apparition, le jeune guerrier reprit rapidement ses esprits et exposa la triste situation de son village. Le monstre l'écouta sans dire un mot, puis croassa. « Si tu veux de l'eau, tu n'as qu'à aller en chercher ailleurs !» Agacé par ces paroles, le jeune homme protesta et décrivit au monstre les souffrances des Indiens qui étaient en train de mourir de soif à cause de lui. Cette fois, le monstre l'écouta et bondit au sommet du barrage. Les lèvres tordues dans un horrible sourire, la créature saisit alors une flèche et fit un petit trou afin de permettre à un mince filet d'eau de s'écouler, en s'écriant « C'est tout ce que je peux faire pour toi, maintenant va-t'en !» Rassuré, le jeune homme rebroussa chemin et retourna dans son village. Pendant 3 jours, le lit du ruisseau fut à nouveau rempli d'eau, et le 4e jour, il redevint aussi sec qu'auparavant, et les Indiens furent à nouveau torturés par la soif. Mais du haut de sa demeure céleste, Glooskap, le grand esprit qui lit à livre ouvert dans le cœur des hommes et des bêtes, fut touché par leurs souffrances et décida de les secourir. Pareil au vent qui se lève sans que nul ne sache d'où il vient, il apparut soudain à leur côté sous la forme d'un géant de 10 pieds de haut, coiffé d'une couronne de plumes noires et rouges. Ses yeux étaient cerclés de verre, d'effrayantes peintures de guerre écarlates zébraient son visage et de grandes coquilles de palourdes se balançaient à ses oreilles. Son apparition fit sensation. Les jeunes filles admirèrent sa prestance et les guerriers crurent d'abord qu'il était le diable en personne. Mais Glooskap se présenta, demanda à écouter leur histoire et leur promit de tout arranger. Sans ces paroles, il se dirigea vers le barrage. Arrivé à son pied, il s'assit par terre et demanda à un garçonnet de lui apporter à boire. Mais ce dernier lui expliqua que le chef du village était le seul à pouvoir puiser l'eau retenue dans le bassin. « Très bien, va donc le trouver !» s'écria Glooskap avec colère. « Demande-lui de se dépêcher de me donner à boire, sinon j'irai le voir moi-même !» Le jeune homme disparut aussitôt. Pendant plus d'une heure, le grand esprit attendit son retour en fumant la pipe. Enfin, le garçon réapparut en tenant à la main une coupe à moitié pleine d'eau vaseuse. Furieux, Glooskap se leva et alla demander au chef du village de l'eau claire. Arrivé devant le monstre au ventre énorme, il lui dit d'une voix tonnante « Donne-moi de l'eau fraîche, monstre de boue, ou il t'en cuira !»« Va chercher de l'eau ailleurs !» se contenta de répondre l'horrible créature. Fou de rage, Glooskap saisit sa lance et transperça le ventre du monstre d'où jaillit un véritable ruisseau, car la créature avait bu l'eau toute l'eau contenue par le bassin. Se dressant de toute sa hauteur, le grand esprit empoigna alors le monstre, courba son échine et le transforma en grenouille pour le punir de sa soif égoïste. Satisfait, il alla ensuite annoncer le retour de l'eau aux Indiens. Mais à sa grande surprise, ce fut un village désert qui l'accueillit. Une chose extraordinaire s'était en effet produite durant son absence. Pour passer le temps, les Indiens assoiffés s'étaient mis à imaginer ce qu'ils feraient s'ils avaient à leur disposition l'eau la plus pure et la plus désaltérante du monde. « Moi, s'était écrié un jeune homme, je vivrai dans la boue pour être toujours au frais. Pour ma part, avait ajouté un autre, je passerai mon temps à plonger du haut des rochers et à nager dans l'eau froide. Mon rêve, avait expliqué un troisième, serait de me laisser porter par les vagues et de vivre sur le sable, tantôt au sec, tantôt dans l'eau. Mon souhait serait de vivre à tout jamais dans l'eau et de nager sans fin, avait soupiré le quatrième. Or, en ce temps-là, les vœux les plus fous étaient parfois exaucés, et c'est ce qui arriva. Certains Indiens furent changés en sangsues, d'autres devinrent des grenouilles mouchetées, des crabes ballottés par les flots ou des poissons. C'est ainsi qu'apparurent les toutes premières créatures aquatiques, lesquelles furent aussitôt happées par le ruisseau libéré par Glooskap. En grondant, ce dernier les emporta sur toute la surface de la terre, puis les déversa dans la mer. C'est ainsi que les eaux, jusque-là inhabitées, accueillirent les poissons qui les peuplent aujourd'hui. Le bouclier de la princesse de l'océan. À l'aube des temps, Culain, le forgeron des dieux, vivait sur l'île de Man. À cette époque, un chevalier nommé Conchubar devint célèbre à la cour du roi Ulster pour son habileté à manier l'épée. Or, ce jeune homme intrépide rêvait en secret de porter la couronne. Un beau jour, il décida de se rendre chez le druide de Clogher afin de lui demander conseil. Va sur l'île de Man, lui répondit le druide, et commande à Culain une épée, un bouclier et une lance. Ces armes te permettront de conquérir le royaume d'Ulster. Conchubar s'empressa de suivre les recommandations du vieil homme. Il se rendit au bord de la mer, loua un bateau et fit aussitôt voile vers l'île de Man où il accosta. Après avoir marché toute la journée, il arriva devant la forge de Culain au crépuscule. De l'extérieur, il pouvait voir les flammes de la fournaise rougeoyer et entendre le fracas des marteaux frappant les enclumes. Alors qu'il s'apprêtait à cogner à la porte, un chien se mit à aboyer et à gronder aussi fort que le tonnerre. Attiré par ce remue-ménage, Culain sortit voir ce qu'il se passait et demanda au jeune homme ce qu'il lui voulait. « Bonjour, Culain !» s'écria le chevalier. « Je viens te trouver de la part du druide de Clogher qui m'a conseillé de te commander une épée, une lance et un bouclier, car seules ces armes forgées de ta main me permettront de conquérir le royaume d'Ulster. » En entendant ces paroles, le visage de Culain s'assombrit, mais voyant que le jeune homme avait l'air déterminé, il soupira. « Très bien, j'accepte ta commande, mais je te préviens qu'il va te falloir patienter un bon moment. » Sur ces mots, le forgeron rentra dans sa forge et se mit au travail. Conchubar, quant à lui, s'installa sur l'île. Un matin de mai, alors qu'il se promenait sur la plage en se demandant combien de temps encore il lui faudrait attendre, une étrange lueur l'aveugla. Intrigué, il s'approcha de la source lumineuse et aperçut la plus belle femme qu'il ait jamais vue. L'inconnue était endormie sur le sable. Sa chevelure avait la blondeur des fleurs d'ajonc. Sa peau était plus blanche que l'écume des vagues et ses lèvres aussi rouges que le corail. La jeune femme portait une robe tissée d'algues multicolores, dont l'ourlet retombait et se soulevait au rythme de la marée, et des perles étincelaient autour de son cou. Mouchbar se plancha vers elle et comprit qu'il s'agissait de la princesse de l'océan. Afin d'éviter qu'elle ne disparaisse dans les flots en se réveillant, il l'attacha solidement avec sa ceinture. À cet instant, la jeune femme ouvrit les yeux, le dévisagea avec terreur et s'écria en se débattant. « Je t'en prie, libère-moi » Le chevalier resta muet. La belle prisonnière l'implora une nouvelle fois. « Je t'en supplie, libère-moi !» Mais le jeune homme, qui était tombé amoureux d'elle, se dit alors qu'il préférait renoncer à tous les trésors de la terre plutôt que de se priver de sa compagnie. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je suis Tival, la fille du roi de l'océan, » répondit la jeune femme. « Je t'en conjure, laisse-moi partir !»« Hélas, si je te libère, je sais que tu disparaîtras jamais dans les profondeurs de la mer, » soupira le jeune homme. « Il m'est impossible de rester avec toi sur la terre ferme, » supplia Tival. « Mais si tu acceptes de me laisser rentrer chez moi, je t'offrirai un cadeau en échange. » Ému par sa détresse, Conchubar finit par accepter à sa requête, mais il tint à préciser. « Belle Tival, je t'obéis non pas par un pas du gain, mais parce que je ne peux rien te refuser. » Et sur ces mots, il détacha la ceinture qui la maintenait prisonnière. « Voici mon cadeau, » déclara alors la princesse de l'océan. « Va trouver Culain, le forgeron, et dis-lui que Tival, la princesse de l'océan, lui demande de peindre son portrait et de graver son nom sur ton bouclier. Lorsque tu combattras, il te suffira de regarder mon visage et de crier mon nom pour que la force de tes ennemis se répande dans tes veines. » Après avoir salué Conchubar, la jeune femme plongea dans les vagues. Attristée, le chevalier contempla la mer, puis se rendit à la forge pour transmettre le message de Tival. Culain termina le bouclier en le décorant, suivant les recommandations de la princesse de l'océan. Puis il forma une épée magique et une lance, dont la tige était incrustée de pierres précieuses. Revêtu d'un manteau pourpre et d'une tunique brodée de fils d'or, Conchubar retourna alors en Irlande avec ses armes magiques. Et Tival tint sa promesse. Alors qu'il livrait bataille pour s'emparer de la couronne, il contempla le beau visage de la princesse de l'océan et s'écria de toutes ses forces. « Tival, viens à mon secours !» Aussitôt, il sentit croître sa vigueur, se mit à combattre avec la violence d'un géant. Il remporta la victoire, son rêve se réalisa et il finit par être couronné roi d'Ulster. Il manda à sa cour Culain, le forgeron, et lui offrit en guise de remerciement la plaine de Meurenmeny. Conchubar régna longtemps sur l'Irlande, mais il ne revit jamais la belle Tival qui avait ravi son cœur. Devinette australienne. Ma sœur jumelle brille au ciel et moi dans la mer. Qui suis-je ? La réponse est l'étoile de mer.